Il y a de l'espoir. Je regarde AccuWeather et on dirait qu'en fin de semaine, on n'a presque pas de pluie.
Ah, bon.
On a des nuages samedi puis du soleil dimanche. Ouf! Julie Grenon, aux nouvelles.
Bilan des pannes électriques à cette heure-ci. Donc, ça s'améliore d'heure en heure. On était tôt ce matin à un peu plus de 10 000 clients d'Hydro-Québec privés d'électricité dans la grande région de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. On est actuellement à plus ou moins 3 000. Les pannes, évidemment, sont dues au fort vent et forte pluie des dernières heures. Également à l'heure actuelle, les équipes sont à pied d'œuvre pour régler la situation. La Ville de Québec veut s'assurer du contrôle optimal des coûts liés au projet de transport structurant. Alors, pour ce faire, elle a retenu les services de la firme KPMG. C'est un contrat de 438 000 $ plus taxes qui lui a été attribué. La firme accompagnera et conseillera le bureau de projet de la Ville dans la prise de décision en ce qui a trait principalement aux aspects financiers du projet. Donc, un contrat de 12 mois. Et pour ce qui est du bureau de projet, ça prend forme. Le comité directeur sera dirigé, on le sait, par André Legault, ancien directeur général de la Ville. Et les candidats qui composeront le comité sont en cours de sélection. Des rencontres citoyennes auront lieu au cours des prochaines semaines.
Et pourquoi ils ont besoin de KPMG? Parce que André Legault, c'est un ancien directeur général de la Ville. Il connaît toutes les règles, là. J'ai un peu de misère à comprendre l'utilité d'un contrat supplémentaire.
Le maire de la Ville pourra peut-être l'expliquer. Il est actuellement en point de presse. Peut-être que Jonathan reviendra avec...
Il va venir nous parler, Jonathan, un peu plus tard.
Avec des réponses à ce sujet-là. Mais on dit que c'est une démarche habituelle, usuelle, dans ce genre de projet-là. Puis évidemment, sûrement, ce qu'il va nous dire, c'est que ça va lui permettre d'éviter des dépenses inutiles. Là, souvent, c'est la raison.
Il a besoin d'en éviter beaucoup pour payer combien? 400 quelques mille?
438 000 $ plus taxes. Le Parti libéral du Québec pense déjà à l'après-Couillard. Les ministres sortants réunis à Québec aujourd'hui commencent à se positionner en vue de la prochaine course au leadership. Déjà hier, on apprenait que Sébastien Proulx a été nommé leader parlementaire de l'opposition officielle. Il n'a pas écarté la possibilité de se présenter comme candidat à la chefferie. Il a nié aussi causer un malaise au sein de son caucus parce qu'en raison des avantages indus qui lui sont octroyés, en fait, il aura droit à une équipe, à un budget et aussi une plus grande visibilité à titre de leader parlementaire. Pour sa part, le ministre des Finances sortant, Carlos Letao, s'est prononcé en faveur d'une course à la chefferie mettant en vedette les jeunes politiciens. Et ça, ça vient en contradiction avec le ministre sortant, Pierre Moreau, qui a été défait dans Châteauguay. Lui, il veut continuer à faire de la politique. Il est âgé de 60 ans et il estime qu'il ne sera pas trop tard, même dans 4 ans, pour être premier ministre.
Le premier ministre actuel au Québec est peut-être un petit peu plus vieux que moi, alors je pense que c'est pas un âge qui est incorrect là. Il y a quelques semaines, quelques mois de d'écart. J'imagine qu'il va être sur les rangs pour la prochaine élection. Alors j'ai l'impression que je me qualifie encore dans le groupe.
Dans le groupe, parce qu'il y aurait dans le groupe aussi Alexandre Taillefer qui a donné une première entrevue en disant qu'il a fait notamment l'erreur d'aller avec des lunettes fumées dans une conférence de presse. Oui. À mon avis, il a fait d'autres erreurs que ça, là. Il ne ferme pas la porte à l'idée de devenir chef.
Ben là, ça marchera jamais. Voyons donc, pourquoi il se met pas ça dans la tête, là? Ça marchera jamais. Il y a plein de libéraux qui étaient pas du tout contents de sa présence dans la campagne. L'espèce de rôle qu'on essayait de lui faire jouer en tant que président de l'organisation. Tout ça, c'était comme... de la frime, de la poudre aux yeux. Je sais pas où il s'en va avec ça, Alexandre Taillefer, mais... Ouf!
Est-ce que ça se peut que ce soit un homme qui, autour de lui, ne court tel que personne n'ose lui mettre le miroir d'en face solidement?
Je le sais pas.
Tu sais, des fois, là, les gens qui sont puissants, là, ils s'entourent de gens d'une cour qui les empêchent de se voir.
C'est le côté d'Alexandre Taillefer qui est un peu bizarre. C'est que il réussit à se bâtir l'image d'un homme d'affaires extrêmement prospère, avec un petit air un peu BCBG, comment il appelle ça, dont savamment négligé, là, et l'air un peu gauche tout en étant dans le monde des affaires. La réalité, c'est que c'est pas un grand homme d'affaires. Là. Il est bon en baptême pour aller... excuse-moi d'avoir dit baptême en nom, mais il est bon pour aller chercher des subventions, ça, je peux te le dire.
Et oui, on termine avec l'ouragan Michael qui a matraqué ni plus ni moins le nord-ouest de la Floride. Ça a fait au moins 2 morts, des dommages d'une ampleur inimaginable. À Panama City, où Michael a touché terre avec des vents de 250 km/h, les rues sont jonchées d'arbres déracinés et de poteaux électriques arrachés. Des toits ont été emportés, des maisons éventrées par des chutes d'arbres. Michael, rétrogradé au rang de tempête tropicale, a maintenant atteint les Carolines, une région qui ne s'est pas encore entièrement remise de l'ouragan Florence. Même affaiblie, la tempête demeure capable de générer des vents violents et de déverser des pluies abondantes. Elle pourrait aussi donner naissance à d'autres, à des tornades. Plus de 900 000 clients sont privés d'électricité en Floride, en Alabama, en Géorgie et dans les Carolines.
Et la queue de Michael n'est pas censée venir nous chercher, hein?
Non, selon les images que j'ai vues, ouais, c'est ça.
Il va bifurquer.
Ouais. On pourrait penser que c'est Michael qui vient nous achaler, mais c'est pas ça.
On vient d'y faire peur.
Non, Michael est dans le trouble. Mélangez pas les affaires.
Ah oui, Michael.
Ouais, c'est une autre sorte d'ouragan.
Michael et Michael. Deux noms pareils dans l'actualité.
Alors, l'ouragan, qu'avait de particulier l'ouragan Michael? Eh bien, il était arrosé avec de l'eau.
Chaude.
Chaude.
Midi 15.
Myriam Segal. Luc Lavoie, au FM 93. Vous écoutez.
Segal Lavoie, le midi. On jette une lumière différente sur ce qui retient votre attention.
Segal Lavoie, le midi.
FM 93, ça me parle.
Luc, tu déplorais hier la Disneyisation du Vieux-Québec.
Oui.
Moi, je suis allé faire un tour lundi dans le Vieux-Québec. J'ai pas osé y aller samedi, là. Mais c'était, il y avait du monde, des cortèges de Japonais, ça sentait le diesel, c'était trop pour en profiter. Et ça, toi, ça t'inquiète, mais ça inquiète aussi des gens qui font affaire dans le Vieux-Québec. Comme par exemple, Romuald de Georgeon, qui est le propriétaire de l'hôtel Château Fleur-de-Lys, qui est une petite auberge qui est derrière le Château Frontenac, oui, tu sais, dans le petit carré derrière le Château Frontenac, là. Bonjour, M. Georgeon.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous inquiète?
Alors, ce qui m'inquiète, alors ça me fait c'est drôle en tout cas que ce que j'ai répondu à Raphaël Plante sur le soleil vendredi matin et fait telle affaire. Mais en fait, ce qui m'inquiète, moi je suis ravi d'avoir des touristes, évidemment, je vis de ça en grande partie. Je paye 10 personnes tous les mois grâce à eux. Donc moi, j'ai aucun problème avec les touristes, aucun problème avec les croisiéristes, sauf que j'avais l'impression dans l'article ce jour-là que le port était ravi de battre des records un peu tous les ans.
Ouais.
Sur le nombre de bateaux à quai.
Là, il y en avait 8 en même temps.
Voilà. Et le problème, c'est que nos hôtels sont déjà bien pleins. En plus, c'est quand même le week-end de l'Action de Grâce. Donc, les hôtels sont pleins, de croisiéristes ou pas. Mais en plus des croisiéristes qui débarquent, plus les bus qui viennent de Montréal, plus tout ça. Enfin, je veux dire, la ville était impraticable vendredi et samedi, quoi. Et nous, ça fait 2-3 ans qu'on entend maintenant les touristes, les gens qui sont chez nous, qui sont croisiéristes ou pas, nous dire « Oh là là, mais c'est comme ça tout le temps. Il y a trop de monde. On peut rien faire. » Moi, pour réserver des restaurants, c'était soit à 16h, soit à 22h, si j'avais de la place. Les taxis étaient débordés et les gens prenaient des Uber. Et moi, ce qui m'a fait vraiment mal, et c'est là où j'ai réagi, c'est le moment où j'ai appuyé sur mon ordinateur, j'ai dit « j'envoie un mot », c'est qu'un client japonais, enfin coréen, a payé $30 pour monter du port à chez nous en Uber.
Oh là là.
Parce
là,
que la demande était si forte et le trafic si dense que Uber ajuste ses tarifs en conséquence.
Voilà. Donc Uber fait ça. Je veux dire, tout le monde le sait. Le client n'avait pas le choix, il fallait bien qu'il monte. Moi, j'ai un confrère à côté qui a pris sa voiture et qui a descendu des clients sur le port, quoi. Donc là, je me dis, à un moment, c'est bien de vouloir accueillir des touristes, mais faut les accueillir correctement, quoi.
Mais
et à un moment, on n'est plus capable de les accueillir correctement quand on n'est pas équipé pour. En plus, on manque de main-d'œuvre, tout le monde le sait. C'est quand même dans tous les journaux, tout le temps, tout le monde en parle. Donc voilà, quoi. OK, accueillons des touristes, mais essayons d'étaler un petit peu. Moi, je sais pas, je connais pas le travail du port.
Ouais.
Ils font un super travail parce que quand même, ils accueillent quand même 8 bateaux en même temps. Mais le problème, c'est que c'est la ville derrière. Est-ce qu'elle peut les accueillir proprement, gentiment, courtoisement? Enfin voilà, quoi. C'est tout ça qui me
dérange. En fait, on a atteint un point de bascule, hein.
Vous qui vivez du tourisme, là, avez-vous parfois l'impression qu'on va finir par tuer la poule aux œufs d'or?
Alors, dans l'article soleil, il est indiqué que j'ai travaillé ailleurs. Moi, je fais référence à la Côte d'Azur en France, où dans les années, fin des années 90, On a tellement pressé le touriste au niveau du prix, au niveau de la disponibilité, au niveau de l'accueil qui était terrible. Alors effectivement, l'accueil sur la Côte d'Azur n'était pas toujours à la hauteur. Et à un moment, les gens se sont dit, moi je vais aller ailleurs. Et une fois que les gens, le mot se passe, c'est qu'ils vont ailleurs, faut les faire revenir. Et là, ça vous coûte cher. Parce que pour faire revenir des touristes, je veux dire, l'Office du tourisme, le ministère du tourisme fait beaucoup d'efforts pour faire venir des gens à Québec et au Québec, au Canada en général, l'année dernière, par exemple, c'était une année formidable. Le problème, c'est que tout ce travail-là, à un moment, on peut aussi le gâcher parce que, on met trop de monde dans une même boîte, quoi. Okay. Alors, je sais pas comment, moi, j'ai pas de solution pour dire au port, accueillez les plus sur plus de temps, j'ai pas de solution.
Mais ce qui
vraiment dit, attention à pas battre des records tous les ans, parce qu'à un moment, ça va se retourner contre nous.
Parce que le problème devient de plus en plus criant, c'est que c'est devenu comme un décor de cinéma, là, le Vieux-Québec. On peut plus y vivre, alors, presque.
Moi, j'ai pas abordé ce sujet-là, parce que c'était pas je répondais à l'article, c'était pas du tout dans ce sens-là. Maintenant, effectivement, il y a l'autre partie qu'on peut voir et qu'on entend d'autre part. On a accueilli le navire Disney, par exemple. Bon. C'est la grande affaire de l'été. Feu d'artifice et tout ce qui va avec. OK, mais est-ce qu'on n'a pas l'impression d'en faire un peu trop, quoi? Est-ce que Québec a besoin de tout ce cirque pour exister? Moi, je pense pas. Je pense que Québec est une ville qui suffit à elle-même, qui a son histoire, qui a des fortifications. Enfin, les gens, quand ils viennent ici... Bon, à mon accent, vous devez comprendre que je suis pas québécois de base. Oui, mais je suis québécois d'adoption depuis 5 ans. Je vis ici, je vis dans le Vieux-Québec en plus. J'ai un hôtel, j'y accueille du monde et j'ai pris tout ce que je pouvais de Québec pour l'apprendre aux gens, pour aider les touristes, etc. Et là, je me dis, Québec n'a pas besoin de tout ça et on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute et à un moment, on va le payer.
Est-ce qu'on serait dû pour une réunion entre l'Office de tourisme, la Ville de Québec, le Port de Québec, les hôteliers, puis qu'on essaye de répartir les choses de façon un peu plus... Parce que
peut-être
vous avez raison. Écoutez, moi, je suis allé juste lundi dans le Vieux-Québec, puis j'ai trouvé ça intenable. J'ose pas imaginer ce que c'était samedi, là.
Ben, en fait, on est deux propriétaires de l'hôtel et il fait partie de... d'une association où on a dit effectivement il y a des gens qui voulaient pas descendre dans le petit Champlain, quoi. Quand ils ont vu en haut de l'escalier le monde en bas, disant non, j'y vais pas, quoi.
Non mais c'était un petit
donc ouais impossible. Moi je trouve qu'il faudrait effectivement en parler, que tout le monde, tous les acteurs en discutent sans animosité, sans rien, quoi. Enfin, moi c'était vraiment pas j'étais vraiment étonné, hein. Vous avez été quatre journalistes à m'appeler.
Oui.
Je pensais pas faire pour moi c'était juste mon ressenti en tant que recevant du public. Et étant moi-même touriste ailleurs, j'aime pas les endroits où il y a trop de monde, parce qu'à un moment on peut pas profiter de la vraie ville où qu'on visite.
Mais moi j'ai parfois l'impression que on a tout fait pour favoriser le nombre, la quantité de touristes, et pas beaucoup fait pour s'assurer d'un tourisme un peu plus rentable pour la ville, c'est-à-dire moins de touristes qui dépensent plus d'argent.
Ouais, je suis un petit peu d'accord avec vous. C'est-à-dire que peut-être que...
Est-ce que c'est pire?
Je ne sais pas comment le dire pour blesser personne, parce que je n'ai pas, j'ai pas envie de polémiquer sur le fait qu'on des touristes, parce que c'est notre vie, quoi. Enfin, je veux dire, je suis désolé, mais moi, sans touriste, je peux fermer une grande partie de l'hôtel. Mais je voudrais qu'on les accueille toujours comme on fait quand on les accueille au mois de mai, au mois de janvier, au mois de décembre. On les accueille bien, tout le monde est détendu, etc. J'ai l'impression que quand on arrive comme ça sur la fin septembre, début octobre, qui est pourtant une super période pour les touristes, pour voir les couleurs, ils peuvent pas en profiter autant parce qu'ils sont trop nombreux, quoi.
Est-ce que c'est pire que durant le festival d'été? Est-ce qu'on a vécu en fin de semaine?
Ça n'a rien à voir. Ah, le festival d'été n'a rien à voir. Justement, on en parlait hier avec une collègue. Le festival d'été, il y a pas mal de gens du Québec qui viennent. Alors, où ils s'organisent pour venir juste une soirée. On a des touristes qui viennent juste pour un show, puis qui laissent le pass qu'on donne à d'autres clients, etc. C'est plus fluide. Et le festival d'été est extrêmement bien organisé. C'est-à-dire que même s'il y a du monde sur les plaines, etc., c'est une ambiance festive. Les gens font des choses.
Okay.
Le problème des croisiéristes, que je répondais à l'article aussi, c'est que les croisiéristes sont des gens qui c'est une personne âgée, il faut quand même appeler un chat, quoi. Ils sont quand même âgés, du mal à marcher. Donc déjà le Vieux-Québec, ça monte et ça descend. Donc, ils sont cantonnés au Vieux-Port et éventuellement, ils remontent jusque dans le Vieux-Québec. Donc, ils restent dans les murs. J'ai fait un calcul. C'est samedi, on avait, si tout le monde était en ville en même temps, on avait la densité de population dans le Vieux-Québec équivalente à Jakarta. C'est-à-dire plus de 13 000 personnes au kilomètre carré. Est-ce que c'est simple de visiter une ville quand on est 13 000 au kilomètre carré, quoi?
Et est-ce que c'est l'image qu'on veut donner?
Voilà, c'est qu'un chiffre. Mais c'est quand même le volume de personnes, c'était ça. Donc à un moment, je me dis, voilà, quoi, tout le monde. Il paraît que Monsieur Roy va réagir derrière moi. Moi, j'ai rien contre tout ça, qu'on soit bien clair là-dessus, quoi. Mais simplement, je dis, voilà, essayons de moins mettre de bateau le même jour. Est-ce qu'on n'aurait pas pu en accueillir deux autres le lendemain ou la veille ou voilà, quoi. C'est juste répartir un tout petit peu dans le temps parce que c'est difficile de les faire venir en juillet et août, les bateaux.
Oui.
Parce qu'ils sont effectivement en Méditerranée. Ou quand ils arrivent ici, c'est des croisières dites de rock. Enfin, ils viennent pour aller sur Miami, etc. Ils remettent, repositionnent le bateau. Voilà, cherchez mon mot. Donc c'est compliqué. On pourra pas accueillir tous les bateaux qu'on veut quand on veut. Mais par contre, peut-être leur dire désolé, mais là on en a déjà 5, on peut pas en avoir plus, quoi.
Et il y a des grandes villes, enfin des trésors de la civilisation moderne, de la civilisation tout court, pas moderne, que dis-je. Comme Venise, qui sont en train de s'effondrer sous le poids des touristes.
Littéralement.
C'est Venise est une catastrophe. Si on doit, il y a pas longtemps, il y avait un joli reportage qui mettait en cause, alors pour le coup, toutes les maisons qui se transformaient pour les touristes. Donc il y avait plus de vie, plus d'habitants,
plus d'habitation,
moins d'habitants.
Oui.
Là, dans le Vieux-Québec, on entend souvent Monsieur Labeaume, etc., dire il faut que les habitants reviennent. Oui. Mais par exemple, moi, j'habite le Vieux-Québec. Vendredi, rien que pour traverser la rue Saint-Louis, je me disais, mais c'est bon, quoi. Enfin, je vis où, quoi? Quelle idée.
Merci beaucoup du témoignage, merci. Monsieur Georgeon. Il est important. Merci.
J'espère que ça fera avancer les choses, mais que ça ne sera pas une polémique.
Bah, le but, ce n'est pas de se chicaner, c'est de trouver une façon de vivre sur ce territoire-là, de le mettre en valeur, d'accueillir les gens chaleureusement.
Voilà. Parfaitement.
Merci.
Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.
La semaine prochaine, ça fait déjà une couple de jours qu'on tente de parler au directeur du port de Québec, Luc. On devrait lui parler la semaine prochaine.
Ah bon.
Il est en mission quelque part, mais la semaine prochaine, il sera disponible.
Mais je suis pas sûr que... Tu sais, le réflexe immédiat, c'est dire le fric rentre, les affaires vont bien, ça contribue énormément à la prospérité. Il n'y a rien de plus directement rentable que le tourisme parce que ce sont des gens de l'extérieur qui amènent des dollars neufs dans la place. Tout ça, c'est vrai.
Oui.
Mais quand tu regardes le cas de Venise, qui est à faire pleurer, là, quand tu dis qu'à Venise, là, mettons, il y a quelque chose comme 40 ans, il devait y avoir à peu près 500 000 habitants qui vivaient là. Donc, il y avait une vraie vie. Donc, c'était pas juste un décor de cinéma ou des ruines de l'ancien temps. C'était une ville où on vivait, où il y avait une façon de vivre. La même chose s'applique à Florence. Ce sont des villes, maintenant, qui sont carrément en train de perdre leur âme. C'est comme un musée à ciel ouvert. Dieu soit loué, ils sont un peu plus... Ils ont compris ce bout-là, en tout cas à Florence. C'est pas la façon la plus démocratique de traiter les choses, mais le fait est que ça coûte pas mal plus cher à la Florence que ça coûte d'aller ailleurs. Parce que c'est une méthode qu'ils ont choisie. Comprends-tu? On va en avoir moins, mais on va faire autant de fric. À Québec, il faudrait qu'ils trouvent quelque chose comme ça.
Mais le problème se pose particulièrement l'automne, parce que c'est là que les bateaux de croisière se concentrent, parce qu'ils viennent voir les couleurs le long du Saint-Laurent.
Oui.
Puis tu peux pas leur dire, ben vous reviendrez au mois de novembre, il n'y aura plus de couleurs, les feuilles tombent.
Mais il faut accepter, à mon avis, il faut accepter de mettre des limites, puis il faut accepter qu'on peut pas les accueillir tous.
Ouais.
Puis peut-être qu'il faut aussi faire des efforts pour remonter le niveau de qualité des boutiques qui se trouvent un peu partout à l'intérieur des murs. Il faut, de ce fait, s'adresser à une clientèle plus haut de gamme. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, il y a des jours où tu vas au Château Frontenac, j'ai habité souvent au Château Frontenac, et pendant les journées touristiques, les gens viennent dans le Château Frontenac comme tu vas voir un musée.
Absolument. Alors,
tu sors de l'ascenseur, t'as de la misère à traverser le hall. C'est incroyable. C'est hallucinant. Et ça va devenir de plus en plus un problème social. Puis en plus, l'expression que j'ai utilisée tantôt, on est en train de tuer la poule aux œufs d'or. S'il n'y a plus d'attrait à Québec, puis c'est juste un paquet de boutiques qui vendent des sculptures vêtes
faites par les Inuits. Dans des océans d'autobus et de touristes japonais.
C'est ça. Parce que le diesel dont tu te plaignais, ben, il est aussi dans les autobus. Hein, ouais. Je veux dire, 5, 6, 7 autobus de suite, les moteurs ronronnent parce qu'ils veulent continuer à garder l'air climatisé. Waouh, ça sent mauvais.
Alors, comment éviter la venésisation? Ça se dit-tu, la venésisation?
Ce serait un nouveau mot qu'on pourrait inventer, mais Venise, il est presque trop tard. Hein, tu le sais, ils sont rendus au point où ils savent vraiment plus quoi faire pour s'en sortir, parce qu'il n'y en a plus d'habitants. Ils sont rendus en bas de 100 000, je pense. Écoute, c'est...
Que c'est triste, Venise, autant des amours morts.
C'est beau, ça.
Que c'est triste, Venise, quand on ne s'aime plus.
Alors, ça a l'air d'être triste à l'année, si je comprends bien.
Mais l'ennui des enfants.
Ségal, la voix, le midi. De retour dans quelques minutes au FM.